Are you ready?
Un seul coup de cœur?
Oui. Je sais que je te demande.
Alors, quand une femme monte l'escalier de Naruse Mikio,
ouais.
Naruse Mikio, c'est un des grands réalisateurs japonais avec Ozu, Kurosawa, et puis naturellement Kenji Mizoguchi. Et vraiment, c'est des films comme ça, c'est des pures merveilles. Quoi.
D'accord.
Mais sinon, si on permet un coup de cœur par section, pour moi, dans la fiction, la compétition fiction-documentaire, ça serait The Taste of Rice Flour de Song Feng. Dans Femme d'Asie, c'est donc quand une femme monte l'escalier, dans Parole de femme. Dans les films de Malas, ça serait Le rêve de la ville, où justement Malas parle de son enfance et fait des allusions à la présence française en Syrie entre 1919 et 1947. Un film magnifique sur l'enfance et la mémoire. Et puis dans les films de Wong Zhaoshuai, j'aime beaucoup Chongqing Blues. C'est la difficulté pour un père de faire le deuil de son fils, puisque ce n'est pas dans l'ordre des choses. Et puis naturellement, ça va n'étonnera personne, ça serait Les cinq couleurs de l'arc-en-ciel dans la section Mongolie, mais j'aime beaucoup aussi Le réveil et aussi L'ombre. C'est des films très 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 beaux. Et puis alors dans les films d'animation, Dans un recoin de ce monde, alors ça c'est un film japonais d'animation, mais alors c'est une pure merveille plastique, et ça compte l'histoire d'une petite fille dans les années 1935 qui voit la montée du militarisme japonais, la marche à la guerre, après ça la catastrophe qu'est la Seconde Guerre mondiale, l'occupation du Japon par les Américains, et après ça elle transcende tout ça par l'art, parce qu'en fait elle est peintre, elle devient peintre, elle a toujours été attirée par la peinture, et elle traduit toutes les émotions de ce qu'elle a vécu par la peinture, et elle habite à côté d'Hiroshima. C'est vraiment un très très beau film
documentaire,
un très beau film manga d'animation.
D'accord.
Et c'est vraiment, et en plus on peut le voir en famille, et d'ailleurs on l'a mis le dimanche après-midi à 13h45 pour qu'on puisse le voir en famille comme on peut voir un Walt Disney. Mais c'est vraiment, il y a plusieurs niveaux de lecture, aussi bien pour l'enfant, pour l'ado, pour l'adulte, etc.
D'accord.
Les documentaires?
Et dans les documentaires, j'ai un que j'aime beaucoup, c'est le film chinois que l'on présente en première mondiale, et qui parle des femmes flics en Chine. Et donc j'aime beaucoup l'originalité de ce film, I Am Shang Yuan de Yang Yang. Et justement, il y a une histoire personnelle, c'est que son producteur est un réalisateur chinois qui est déjà venu à Vesoul. On a présenté au moins 5 à 6 de ses films. C'est un des meilleurs documentaristes chinois. Et il a fait une école, et avec sa maison de production, il cherche à promouvoir les jeunes talents chinois. Quasiment tout ce qu'il fait, c'est bon, quoi. C'est ça qui est extraordinaire.
D'accord.
Merci. Peut-être un focus. Et moi aussi, alors. Parole de femme, Marlina. C'est pas du tout objectif. C'est un film fait par une copine indonésienne qui est allée la semaine de la crête. Non, pas du tout. Semaine de la crête. La quinzaine.
La quinzaine des
festivals de Cannes, qui est encore inédit en France, qu'on a pu reprendre grâce à son distributeur mondial Asian Shadows, qui a bien voulu nous le mettre en avant-première quasiment en France. Marlina la tueuse en 4 actes. En fait, c'est un western indonésien contemporain, magnifique, autour de la parole de femme. La compétition fiction, j'aime tout, donc je ne choisirai pas de chouchou. Dans la section documentaire, j'aime beaucoup The Weight, C'était le premier documentaire qu'on a sélectionné d'ailleurs, hein, qui est magnifique, qui est extrêmement actuel sur les migrations clandestines depuis, dans ce cas-là, c'est l'Afghanistan, avec l'exemple d'une adolescente afghane. Enfin bon, bref, je m'en remets toujours pas de ce documentaire, incroyable. Mais la section documentaire dans son ensemble est vraiment très riche. Hein. C'est pas pour nous lancer des fleurs, mais oh, qu'est-ce qu'il y a des beaux documentaires,
On en a vu 323, pour en sélectionner 8, donc on vous montre la crème de la crème. Quant au film de la compétition, on en a visionné 793, et on vous en a sélectionné 9, donc c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur à l'heure actuelle.
Wang Xiaoshuai, un choix un peu curieux, mais c'est The Days, que je ne connaissais pas. Il y avait qui était invisible depuis les années 90, qui est censurée, bannie en Chine, que là encore on a contribué, aidé à se refaire, à une rescanérisation depuis l'original. On a énormément de films qui n'étaient plus visibles qu'on remet en lumière. Et il y avait une version pirate italienne qui circulait, etc., qui était tout en noir et blanc. Et en sous-titrant ce film, en fait, je me suis rendu compte que il y avait des passages en couleur. Donc en plus, ça va être l'œuvre originale telle quelle, et qui est pour moi l'un des plus beaux films faits sur la difficulté d'une relation de couple. Surtout en étant artiste.
D'accord.
Ça peut me parler, mais il est magnifique. C'est pour moi, c'est de la nouvelle vague transcendée, noir et blanc. Bon, bref.
Okay.
Voilà, The Days. Moins visible, moins connu, mais justement. Et Malas Passion, l'un des plus beaux films sur une femme tournée de tout temps.
Génial.
Qui adore la musique d'Homme Caleçon.
D'Homme Caleçon.
Oui. Et donc, et ce qui lui vaut des ennuis avec des intrigues.
Are you ready? Radio Mongol, RMI.
Voilà, succinctement, moi je voulais parler de deux choses. Alors, on va encore voyager comme d'habitude avec la fiction, c'est sûr, et compétition. On va voyager avec la Chine, mais on va l'évincer sur cette partie de documentaire. Et moi, ça me tenait à cœur de parler et de la Syrie et de Paroles de femmes, qui sont deux thèmes que vous mettez en avant cette année, cette 24e année.
Oui, je marque.
Oui, c'est très curieux parce que c'est un thème sur lequel ma femme et moi on travaillait depuis 2 ans et on a été avant l'actualité et ça c'est assez étonnant. Je trouve que c'est bien une marque aussi du FICA de Vesoul. C'est on est toujours en avance où on est toujours vraiment dans l'époque. On sait vraiment ce qui se passe, et donc on est vraiment dans l'actualité à chaque fois, et à chaque fois on a une réflexion sur l'actualité du monde à travers le cinéma, et là on a même devancé l'actualité. C'est ça qui est vraiment étonnant.
C'est et parce que vous êtes en éveil sur ces thématiques et que forcément vous pressentez l'actualité à venir.
Mais il y a aussi que le cinéma, c'est aussi le regard sur le monde. Et en fait, on s'aperçoit, même quand on fait des rétrospectives, qu'elle est aussi le reflet du monde tel qu'il est au moment où c'est filmé.
Donc là, on parle bien de la Syrie.
Quant à la Syrie, il y avait très longtemps qu'on voulait faire un hommage à Mohamed Malas, un cinéaste qu'on avait découvert déjà à la fin des années 90 et début des années 2000, qu'on avait vu un certain nombre de ses films à Fribourg à la fin des années 90 et début des années 2000 au Festival Cinémède de Montpellier. Et il s'est trouvé que ma femme l'a rencontré quand elle était la marraine du Festival Résistance Culturelle au Liban de notre amie Jocelyne Saab. Et donc là, ma femme a sympathisé avec Mohamed Malas. Et là, on l'a revu à Farge, au festival de Farge de Téhéran, hein, là, en avril dernier. Et on lui a dit cette fois-ci, on veut vous faire un hommage. En plus, Mohamed Malas est à la fois francophone et francophile.
D'accord.
Et donc, c'est à partir de là qu'on a bâti cette rétrospective en 11 films. Alors, il m'a dit, nettement, il y a quelques films de lui qui ont été détruits parce qu'il est dans un pays sous les bombes, mais il a eu la précaution d'en mettre un certain nombre en sécurité au Liban, en Allemagne et à d'autres lieux du monde. Donc, on a contacté ces différents lieux du monde où se trouvaient des copies de films de Mohamed Malas. Après ça, on a fait énormément de démarches administratives pour pouvoir le faire venir, car Mohamed Malas habite Damas et il n'y a plus d'ambassade de France à Damas depuis plusieurs années. Ce pays est en guerre, est complètement détruit, et donc pour déposer des dossiers, il faut les déposer à l'ambassade de France au Liban, passer des frontières, passer des checkpoints. Mohamed Malas est un monsieur qui a 70 ans maintenant. Et donc, il a fallu faire des pieds et des mains. J'ai pu contacter moi-même l'ambassade du Liban, expliquant la situation. Et aussi, maintenant, dans les ambassades, ce n'est plus les services d'ambassade qui délivrent les visas ou les services consulaires. Il demande en s'en charger à des organismes privés. Et de ce fait, il a fallu les contacter, les convaincre, et expliquant la situation. Et là, Mohamed Malas, tout dernièrement, ouf, il y a quoi ? Il y a 3-4 jours, ça y est, il a son visa, il va pouvoir être là parmi nous.
Alors, on parle de 11 films d'hommage à Mohamed Malas, oui, qui sera présent, très bonne nouvelle.
Oui.
Et sur ces 11 films,
il y a
des travaux de 1974 à 2013, et il y a 7 inédits.
Si, oui, il y a 7 inédits et il y a 4 longs métrages de fiction et les autres, ce sont des films documentaires.
D'accord.
Parce qu'il est à la fois documentariste et fiction. Alors c'est intéressant ces films parce qu'ils vous montrent une série qui n'existera plus.
Mmh.
Quand il parle de Kounetra, c'était sa ville natale qui a été détruite après l'attaque surprise de l'armée israélienne en 67 et l'annexion du Golan depuis. Et la mémoire, c'est aussi sur cette destruction et cette occupation de la Syrie par l'armée israélienne. Et les rêves de la ville, alors là, c'est autre chose. Là, c'est son premier film de fiction et c'est avant tout autobiographique et il se ressouvient de la Syrie de son enfance dans les années 30, du temps de la présence française. C'est très émouvant à plus d'un titre de ce fait. Le rêve, c'est sur l'exil des Palestiniens qui se trouvent soit en Syrie, soit au Liban. Et là, notamment, il est allé interviewer les Palestiniens des camps de Sabra et Shatila avant le début de la guerre civile. Libanaise et avant les massacres de Sabra et Shatila par les miliciens phalangistes. Et puis après ça, La Nuit. Alors La Nuit, c'est un autre film de Malas, c'est une fiction et c'est la ville qui devient une personne et toute la magie de la nuit. Et c'est un film qui se sent, c'est un film sensoriel, c'est vraiment très très beau.
D'accord.
Ombre et lumière, c'est un documentaire sur un exploitant de salle qui a passé sa vie à mettre de côté des appareils de projection, des films, de défendre une salle de cinéma. Et le problème, c'est que l'âge venant, il a maintenant l'approchant de 90 ans, que tout ce qu'il a amassé, toute cette mémoire qu'il a amassée va disparaître. Il pense que son drame, c'est que ses enfants ne se rendent pas compte que là, que la mémoire du cinéma se trouve là et que c'est plus que la mémoire du cinéma, c'est aussi la mémoire du pays. Et en plus, cet exploitant devient aveugle, il est frappé de cécité, tant qu'il ne peut plus voir les films qu'il a archivés et qu'il a cherché à sauver tout au long de sa vie. C'est quelque chose d'extrêmement poignant. Alors, après ça, il fait un très beau portrait dans Boudarès sur un grand peintre syrien qui a connu Picasso, Dali et tous les grands peintres contemporains. Et il l'interviewe en même temps que Boudarès, ce grand peintre syrien, crée une œuvre. Donc, pendant 52 minutes, il l'interviewe sur sa vie, sur des choses personnelles, surtout que ce grand peintre a perdu l'un de ses enfants, donc c'est aussi sur le deuil de l'enfance, et aussi sur la création artistique, et c'est vraiment passionnant à regarder. Sabri Moudala, le semeur de voix, alors là, il s'intéresse, c'est un très beau portrait d'un chanteur syrien, qui à la fois chante des chants profanes et des chants sacrés, et l'interviewe soit dans son intimité chez lui, soit quand il fait des prestations, et il y a des passages très beaux où à un moment donné il interprète des chants soufis et il y a les derviches tourneurs qui dansent en même temps, et c'est vraiment l'Orient tel qu'on s'imagine et dans toute la culture proche oriental du Levant et d'un monde qui est martyrisé. Nous, on le sait, mais dans un monde qui a disparu sous les bombes.
De plus, c'est un Orient, c'est un Proche-Orient, comme sa dénomination.
Oui, c'est cela. Oui, ben là, on est au Levant, donc on est au Proche-Orient.
On est très proche
c'est ça.
De ces gens-là, de par la francophonie.
Alors oui, ce qui est assez étonnant, quand je m'étais rendu en Syrie en 2007, je m'étais rendu compte que une grande partie de la population était francophone. Naturellement, les 8% de Syriens qui sont appartiennent aux minorités chrétiennes d'Orient, mais pas seulement, mais aussi beaucoup de Syriens musulmans dans différentes branches de l'islam, hein, parce que l'islam n'est pas du tout monolithique. Et j'avais remarqué, j'avais été frappé par le fait que la Syrie était un pays de gens extrêmement cultivés. Je me souviens quand je déambulais dans la capitale de Damas, le nombre de quartiers, de bibliothèques, de librairies, d'impressions, d'imprimeurs, etc. Et aussi de musées, de salles d'art, etc. Et je me disais, il ne faut pas oublier que la Syrie est quand même le berceau de la civilisation citadine, berceau de l'écriture, hein, avec l'écriture cunéiforme, etc. Et qui est complètement aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe et je vois les informations, qui est complètement livrée à la barbarie. Et je me dis, mais comment l'homme peut-il être aussi méchant et peut d'un seul coup s'auto-détruire de cette façon-là?
Alors on peut coupler justement ce thème, cet hommage à Mohamed Malas avec également l'exposition à la chapelle de l'Hôtel de Ville.
Oui, oui, c'est cela, oui, de Zakaria Abdel Kafi.
À propos du présent de la Syrie, de photos de ruines, mais pas seulement.
Oui, de visages peut-être.
Alors il faut bien comprendre que on voit la destruction. C'est plus facile de photographier la destruction des monuments, mais il y a ce qui est plus terrible, c'est la destruction des âmes, des corps et des blessures physiques et des blessures morales, et ça sera très compliqué à restaurer, en espérant que la paix revienne. Mais pour que la paix revienne, il faut aussi la justice.
On peut en terminer sur ces bons mots et évoquer paroles de femmes. On sait qu'on va beaucoup voyager, là il s'agit d'une vingtaine de films.
C'est ça, on a choisi un voyage transcontinental en Asie avec 20 films où les femmes prennent ou tentent de prendre la parole y arrive ou n'y arrive pas. Ce ne sont pas des films faits obligatoirement par des femmes, mais naturellement, il y a un certain nombre qui sont faits par des femmes. Il y a aussi des films faits par des réalisateurs hommes qui donnent ou qui montrent la difficulté pour une femme de prendre la parole. Et ça aborde des sujets extrêmement différents sur la maternité, sur le crime d'honneur, la polygamie, le droit au divorce, le droit à la plurimaternité, sur le veuvage, sur l'enfermement religieux, sur le droit au libre choix de son conjoint et au mariage d'amour, sur le mariage forcé, sur l'homosexualité féminine, sur la maternité volontaire, sur l'identité sexuelle, qu'est-ce qu'être une femme, sur le droit au plaisir du corps pour une femme, sur le problème de la prostitution, de l'enfermement social, mais aussi des femmes dans la guerre, de leur droit à la liberté artistique, de leur engagement politique, soit un engagement politique par la non-violence, soit par le combat militaire.
D'accord.
Et ça va du proche à l'extrême-orient, avec toujours en contrepoint dans cette section des regards d'occidental sur l'Asie, et on a choisi notamment en contrepoint d'un regard d'occidental sur l'Asie un grand réalisateur français qui s'appelle Luc Besson, qui a fait un film extraordinaire sur The Lady, qui est sur cette femme qui s'est battue pendant toute sa vie pour amener la démocratie en Birmanie et qui est actuellement dirige le pays et qui est actuellement sous les feux de l'actualité avec tous le problème d'une femme politique quand elle est confrontée à la réalité politique du pays et qu'elle doit faire face à résoudre les problèmes de l'heure qui parfois peut lui échapper. Donc Aung San Suu Kyi, c'est son itinéraire et elle est incarnée par une très grande actrice qui s'appelle Michelle Yeoh. Et c'est vraiment un film très très fort et accessible à tous, hein. C'est vraiment très grand public et en même temps c'est du cinéma d'auteur. Le cinéma d'auteur peut être très grand public. Je donne un simple exemple pour revenir à du cinéma français. Un exemple très célèbre, c'est La Grande Vadrouille. Il était labellisé à RSC et il a fait 17 millions d'entrées. Donc il faut pas non plus croire que quand on dit cinéma d'auteur, c'est du cinéma ésotérique, hein. Non, ça peut être du cinéma extrêmement grand public, simplement d'auteur parce que il n'est pas formaté par les studios, mais qu'on sent la patte du réalisateur, sa patte personnelle, c'est ça. C'est ça, le cinéma d'auteur, c'est une patte personnelle. Quand on voit un film de Miyazaki, on dit « Ah, mais c'est Miyazaki ». Quand on voit un film de Truffaut, il a une patte, c'est Truffaut. Quand c'est Luc Besson, c'est Luc Besson, ça ressemble pas à un autre film.
Ce sont des belles leçons de vie que sont les films de cinéma et on peut se donner rendez-vous donc pour 8 jours pleins de films, de rencontres et plein de chaleur à partir du 30 janvier jusqu'au 6 février.
Et ça se passe à Vesoul.
Oui, ça se passe à Vesoul, l'épicentre du cinéma asiatique et en France, puisque ce festival de Vesoul, qui attire plus de 30 000 spectateurs, fait partie des 10 plus grands festivals de cinéma en France en nombre de spectateurs, et fait tout cela en complet bénévolat, ce qui est un OCNI, un objet cinématographique non identifié.
Chapeau à vous. Merci.